France Inter.fr.
France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Nous sommes toujours en Gironde et une partie du sommaire sera consacrée à la viticulture biologique. Ces informations s'inscrivent dans le cadre de la campagne nationale qui a commencé la semaine dernière. On en a parlé, manger bio et local, c'est l'idéal. Et manger bio, c'est oublier souvent de mentionner plus largement une consommation de produits dans lesquels s'inscrivent les vins et la viticulture. À ce sujet, les disparités sont importantes d'une région à une autre. En totalité, on comptabilise 1488 viticulteurs bio en France à l'heure actuelle, soit 1,4% du vignoble français. L'agriculture bio, vous savez, a atteint, elle, ça y est maintenant, et même dépassé 5%. La région la plus productrice est celle qui s'appelait le Languedoc-Roussillon, avec 5000 hectares qui représentent à eux seuls 31% de la surface viticole bio nationale. Viennent ensuite la Provence, puis donc l'Aquitaine. Et parmi les 4000 hectares en cours de conversion, nous allons prendre l'exemple du domaine de Château-Coulonges de Nicolas Roux, premier témoin. Ensuite, nous découvrirons une petite entreprise originale née en janvier 2015, elle s'appelle Atataï. Elle est dirigée par Nadège Fouillet, seconde invitée, qui recycle les pneus de vélo pour produire des ceintures, des ceinturons.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Nicolas Roux, bonjour. Avec vous, Nicolas, nous allons poursuivre notre présentation des productions biologiques, de l'agriculture biologique. Mais quand on dit agriculture, on oublie très souvent la viticulture. Vous êtes tombé dans la vigne enfant, dites-vous ?
Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit, au sens propre, comme figuré,
ouais.
Puisque je suis tombé dans une cuve.
Ah, carrément. Voilà. Et dites donc, c'est dangereux, ça ?
Oui, ça peut l'être. Je vois mes enfants, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce qu'on habite en face du chai, donc tout est au milieu du domaine. Quoi. Donc, voilà.
Il s'est passé une grande transformation chez vous, dans votre domaine, le domaine Château-Coulonges. Je le cite parce que c'est une histoire familiale, mais qui vous a porté même en conflit avec votre père lorsque vous avez décidé de cesser de suivre les méthodes conventionnelles.
Oui, c'est vrai. Ça a été très difficile, oui. Mais après, j'ai réussi. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et c'est vrai que c'était peut-être un problème de génération. Je ne sais pas. Lui, il a connu que l'agriculture... chimique entre guillemets, hein, il a connu que ça aussi, donc c'était difficile à la fin de sa carrière, je pense, de voir que c'était peut-être pas la meilleure façon de cultiver. Quand on a cultivé toute sa vigne d'une certaine façon, c'est vrai que aujourd'hui je lui en veux pas, qui m'est vraiment qu'on était en confrontation, quoi.
Nicolas, les mots sont forts chez vous. C'est pas par rapport à votre père, c'est par rapport aux méthodes et aux aspects du métier qui ont fini par vous dégoûter, dites-vous.
C'est vrai que j'étais en train de me dégoûter. C'est vrai que j'étais tombé dedans quand j'étais petit, c'est une certaine évidence. J'aime ça, cultiver la vigne et faire du vin. Mais il y a tout plein de méthodes de culture qui n'étaient pas pour moi logiques. Bien avant de m'informer sur ces méthodes, je sentais que c'était pas bon pour moi, pour ma terre, pour mes enfants.
Aujourd'hui, vous êtes dans la deuxième année de reconversion bio.
Oui.
Ça veut dire que vous produisez, alors, sans label encore aujourd'hui, mais vous êtes dans l'entre-deux. Comment expliquer ça aux consommateurs ?
C'est une période de transition. Donc ça dépend des cultures. La vigne, c'est 3 ans. Et c'est une période où dès la première année de conversion, on applique toutes les méthodes qui sont dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. Et c'est vrai qu'il faut attendre 3 ans. C'est comme ça. Hein. C'est pour que la terre s'équilibre. Hein, et il faut 3 ans pour pouvoir afficher le label. Donc c'est vrai que c'est peut-être une période qui est difficile parce que on n'est pas forcément très reconnu alors que justement c'est important parce que c'est une transition de changement, donc c'est dommage parce que c'est important. Si on veut qu'il y en ait de plus en plus, il faut les accompagner.
Et 3 ans, c'est donc la période minimum pour désintoxiquer la terre.
Alors c'est vrai que c'est difficile du jour au lendemain, hein, pour la vigne c'est une plante pérenne, donc il faut qu'elle s'adapte. Donc le fait de lui retravailler le sol, sol, sous les racines, ça peut être compliqué, mais c'est plus pour la production, en fait, pour le vigneron. Parce que finalement, le raisin, dès la première année, il n'aura pas de produit méchant, quoi. Mmh. Dans le vin, quoi. Mmh.
Voilà. Et la reconversion n'est pas facile, mais je dis pas ça pour rebuter les candidats à une viticulture biologique, mais le passage de l'ancien au moderne, ou en tout cas du conventionnel au biologique, n'est pas évidemment simple, c'est pas un petit parcours de santé, il faut s'accrocher, il faut avoir de la patience, et puis il faut surtout apprendre à éduquer les consommateurs, parce que on change totalement le goût.
Alors, totalement, je sais pas, on change le goût, enfin, si quelqu'un travaille bien en conventionnel, enfin, dans le vin, parce que le vin, après, il y a le travail aussi de vinification, donc il faut accompagner le raisin le mieux possible, hein, donc, mais après, le goût, je pense que c'est plus en termes de qualité nutritive et puis de goût franc, naturel. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, c'est-à-dire qu'on ne triche pas. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, mais pour moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant et passionnant, quoi. Parce que effectivement, on peut avoir des années difficiles, compliquées, mais le but, c'est de ne pas rater une vie. Une vie de vigneron, c'est quand même long et encore plus long, parce que moi, je suis que de passage et je sais très bien que derrière moi, peut-être mes enfants ou mes petits-enfants, etc. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Nicolas. Bon courage pour la suite. Donc, l'année prochaine, voilà, vous aurez conclu ces trois années requises pour passer en viticulture bio. Château Coulonges, vous allez avoir le lien à notre page avec la page Facebook et aussi avec Agrobio Gironde, dont vous êtes maintenant administrateur. Merci, Nicolas.
Très bien. Merci à vous.
Nicolas n'est évidemment pas le seul à orienter ses pratiques vers une viticulture bio. Mais c'est vrai que la difficulté pour ces passionnés de se faire admettre par une profession dans le Bordelais de 10 000 récoltants qui exploitent ou gèrent la plus vaste AOC de France. Certains professionnels ont même fait le choix encore plus rigoureux de travailler en biodynamie. C'est le cas du domaine Émile Grelier dans le Nord-Libournais, entretenu et animé par Delphine et Benoît Vinet. En fait, je devrais dire Delphine, Benoît et leurs enfants, puisque tout le monde participe à la vie du domaine et à sa production. La presse n'a pas manqué de parler du couple, non seulement pour les bouteilles qui ont été acheminées par bateau à la COP21, plus particulièrement à la Fondation Nicolas Hulot, mais aussi pour sa démarche en faveur de l'agroforesterie, de la biodiversité. Accompagné par l'association Arbres et Paysages, qui a déjà planté des kilomètres de haies dans cette région aquitaine, Delphine et Benoît ont planté 800 arbres dans leur domaine, parfois plus proche des vignobles. Comme l'expliquent les intéressés dans un article, l'arbre ne fait pas concurrence à la vigne, car il régule l'eau du sol, il fait remonter les nutriments. Accessoirement, les arbres accueillent aussi les oiseaux, d'où le refuge LPO qui a pris place à cet endroit. La démarche se veut holistique, comme l'écrit Benoît, c'est-à-dire que animaux, plantes, insectes, hommes et vignes interagissent et on tient compte de tous ces éléments en interaction. Le domaine est ouvert au public pour des explications. D'ailleurs, chaque deuxième dimanche après-midi du mois, pourquoi j'écris MOI, du moins MOIS, le site, non c'est à cause de mon papier, parfois je relis et j'ai faute d'orthographe, mais en douille. Le site c'est domaine-emile-grelier.fr, c'est une adresse que vous allez retrouver à nos pages d'émission sur franceinter.fr et sur Facebook, heureusement que vous ne voyez pas mes papiers. Nadège Fouillet, bonjour.
Oui, bonjour Philippe.
Nadège, vous êtes une créatrice recycleuse, adepte de l'upcycling. Éco-responsable et éco-citoyenne, dites-vous, et vous avez créé en janvier 2015 dans un village de Gironde, à Bruges, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle Atataille. Vous réalisez des ceintures à partir de récupération de pneus de vélo.
Tout à fait. Je me suis lancée dans cette démarche, puisque c'est une matière, le pneu de vélo, qui, une fois sorti de son contexte du cycle, eh bien, n'a pas de circuit de recyclage.
Mmh. Vous, créatrice de formation, le recyclage, vous connaissez, parce qu'apparemment, vous l'avez déjà bien utilisé.
Tout à fait, oui, de formation. Je suis décoratrice étalagiste, donc du décor de vitrine. Et j'avais fait le choix, dans ce créneau-là, de toujours utiliser le recyclage pour réaliser mes décors.
Alors, la découverte des vertus du pneu de vélo, ça se fait dans quel contexte?
Alors, le contexte, eh bien, il faut remonter à un peu plus de 4 ans de ça. Et je réalisais à titre personnel hein, une série de petites œuvres que j'ai appelées la tribu des Savatibiens. Et c'était là aussi quelque chose à partir de chaussures qui étaient échouées sur la plage.
Oui.
Et il y a un de ces personnages pour lequel je voulais réaliser un cadre en pneu.
Mmh.
Donc je me suis arrangée pour avoir la matière. Et une fois que j'ai eu différents pneus que j'avais pris soin de découper, de bien nettoyer, une fois que je les ai eus devant moi, ça a été le coup de cœur, avec des graphismes très différents. Voilà, je suis restée un long moment à regarder cette matière devant moi et à me dire, bon sang, mais on la brûle.
Et oui, et en plus, oui. Alors, si allez voir le site à ta taille, et je conseille à tout le monde d'aller le voir, votre ceinture 100% pneus de vélo recyclés, je me dis, oh, bah, les modèles doivent être limités, mais en fait, non, parce que vous avez une gamme de vélos, celui de sport, le vélo de ville, le vélo de campagne, le vélo cross, vous avez des pneus de couleur, et finalement, ça fait une gamme de produits très, très variée.
Tout à fait, oui. La couleur, c'est plus sur du pneu de course. Et puis ensuite, bon, les gammes VTT, VTC, cross ou même BMX, ça vient du fait aussi que j'ai mis en place un petit réseau de collecte auprès des vélocistes.
Oui.
Et que sur la quantité, eh ben, j'arrive à avoir effectivement des gommes avec des graphismes très différents.
Mais vous traitez la matière quand même ou vous la transformez?
Alors, je la transforme dans la transformation. Ce qui est englobé, c'est toute la découpe. Et ensuite, il y a une question de lavage. Voilà, tous mes modèles sont brossés recto verso, avec un produit qui respecte la nature de la gomme et qui respecte aussi l'environnement, puisque l'eau part dans les eaux usées quand même. Après, je ne modifie pas le graphisme. C'est pas du tout ma volonté, puisque je le trouve beau déjà à la base. Et il n'y a pas de traitement chimique où je ne chauffe pas la gomme, voilà.
Résultat des clients, d'abord dans votre entourage, on a dit ça va pas, Nadège, tu es folle, c'est impensable, une ceinture en pneus recyclés de vélo, ça va pas tenir, ça va être vilain. Comment on a réagi?
Alors en fait, c'est une démarche qui est, je vais dire, à 99% bien reçue, dans la mesure où c'est une matière que je recycle. Ensuite, il y a le rendu du produit qui fait que même si on pense recyclage, on pourrait se dire oui, ça va être trop roots, voilà. Mais tout dépend comment on transforme la matière. Moi, j'essaye de m'appliquer dans mon travail. Donc voilà. Et puis bon, issu aussi d'une première activité où c'était quand même pas mal lié à l'esthétique, je prends du temps pour soigner justement l'esthétique de mes produits.
Ouais. Et comme le pneu devient un peu obsessionnel, vous prévoyez d'intégrer le pneu à du mobilier?
Tout à fait, oui. Et ça, bon, j'en parle pas trop pour le moment parce que c'est encore à l'état de projet et je souhaite, pour mener cette partie à bien, fonctionner avec des recycleries.
Mmh. Ça s'appelle À ta taille. Alors, vous avez trouvé l'orthographe à notre page avec le lien. C'est A-T-A-T-A-Y-E, À ta taille, c'est bien vu. 100% pneus de vélo. Des articles, vous vous présentez, Nadège, comme écolo durable, voire increvable, séduisant et gonflé.
Ouais.
C'est vrai que vous êtes un peu gonflé, mais nous, on aime bien. Et il y a une page Facebook aussi hein, pour voir le travail de Nadège, si vous le souhaitez. Tout cela va apparaître à nos pages d'émission. Merci, Nadège.
Merci, Philippe.
Demain, toujours en Gironde, les Carnets, avec l'atelier du chalet aquitain. C'est une belle histoire de femmes qui étaient salariées d'une entreprise qui s'est délocalisée. Elles ont décidé de reprendre les machines en main. 11 salariés maintenant pour créer des gammes innovantes de chaussures pour enfants. Puis on vous parlera de Baobab, dealer d'espace, une drôle d'association bordelaise qui agite les idées pour réinventer notre lien social à l'espace urbain. On attend des nouvelles de vous du côté du Haut-Rhin, du Doubs, du Jura, de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de Vendée.